De retour à l'émission Au gré du temps, avec nous Pierre Senecal. Je mentionnais en tout début d'émission comme présentation que vous avez connu une carrière vraiment formidable. Vous en faisiez mention avec, entre autres, ses débuts très jeunes. Mais dans le livre que vous avez probablement voulu écrire, histoire peut-être d'aller chercher une forme de pardon, en 2007, votre vie bouscule. Il y a un dépôt d'accusation pour agression sexuelle. Vous allez plaider coupable. Ouais. Vous serez d'ailleurs condamné à 15 mois à faire dans la collectivité.
Dans la collectivité, oui.
Le besoin d'en parler, pour vous, c'était important?
Ouais, c'est mon entourage qui m'a suggéré fortement d'écrire un livre et de remettre les pendules à l'heure. Et c'est dans ce livre-là que je souligne. C'est facile de cataloguer quelqu'un suite à une accusation comme celle-là. Je l'écris en toutes lettres dans ce livre. J'ai simplement, je dois le dire, par compassion, par empathie envers une personne qui souffre de personnalité limite, le trouble de la personnalité limite, j'ai dit oui. Je n'étais pas obligé, il n'y a jamais eu de témoin ou quoi que ce soit. J'ai annoncé que j'étais coupable. Sauf que les journaux et la télé se sont emparés de ça en faisant croire que j'étais coupable de ce dont on m'accusait, de tout ce dont on m'accusait, ce qui était faux. On ne m'a même pas laissé le temps en cours d'expliquer de ce que je reconnaissais. Jamais. Jamais.
Ça n'excuse pas cependant le geste. Non. Vous aviez besoin de pouvoir l'exprimer. Vous reconnaissez vous-même dans le livre que c'est une grave erreur.
Oh oui.
Mais en même temps, vous en avez payé le prix. Vous en payez encore le prix parce que j'imagine que même au sein de vos anciens camarades, les contacts sont peut-être maintenant plus difficiles parce que non.
Pas nécessairement.
Pas nécessairement.
Non, j'ai conservé mes vrais amis. C'est quand même un événement qui remonte à 1978.
Oui.
On est revenu là-dessus 30 ans plus tard, presque 30 ans plus tard.
Mais ce geste que vous avez posé, vous l'expliquez en partie parce que on vous a volé votre jeunesse et à un moment donné, on en perd la tête.
Non, c'est pas de cette façon-là que je l'explique. C'est que je restaurais une maison ancestrale à l'époque et ça m'apportait beaucoup de problèmes. En plus de travailler partout, j'étais sur tous les plateaux. Je prenais un médicament qui a été banni du marché d'ailleurs depuis parce que ce médicament-là provoquait des réactions une modification importante de la conscience avec des épisodes confusionnels et même des moments de désinhibition impulsive. Et c'est vraiment tel que cela que ce médicament-là est décrit. Et j'étais justement tout à fait inconscient à ce moment-là du geste posé. Il n'y a pas eu d'attouchement, et ça, c'est important pour moi de le dire. Il n'y a jamais eu d'attouchement.
Mais vous n'êtes pas dans le déni, cependant. Vous avez reconnu, et on peut le sentir en lisant votre livre,
oui,
que vous aviez une vie, mentionnons un peu l'expression, olé, olé,
ouais,
à cette époque-là.
Et je mentionne aussi que lors de cet événement-là, tout de suite, quelques heures après, je me crachais dessus. Mais vraiment. Et tout de suite, j'avais communiqué avec une psychothérapeute. Et je suis allé en psychothérapie pendant 15 mois. Et j'ai cessé, évidemment, la consommation du médicament que je prenais. En plus de, j'avoue une chose, c'est que dans les années 70, un peu comme plusieurs de mes camarades, je fumais mon petit joint à l'occasion. Et non, c'était pas moi, ça.
Aujourd'hui, à 73 ans, quand vous repensez à tout cela, est-ce que vous avez l'impression que vous avez perdu parfois un moment de votre vie?
Plusieurs. Oui, j'ai sauté bien des étapes dans ma vie. J'ai vécu beaucoup, beaucoup d'expériences diverses, mais tout en... La vie m'a échappé par moments. La vraie vie, une vie normale, j'en ai pas eu pendant longtemps.
Avez-vous l'impression, malgré le temps qui passe, que vous pouvez rattraper un peu le temps perdu?
Oui, aujourd'hui, oui. Ah oui. Et je suis très satisfait de ce qui m'arrive dans l'ensemble de ma vie, malgré le fait que, bon, je suis devenu un peu un chanteur oublié, pour plusieurs. Il demeure que lorsque je présente des spectacles, ça marche toujours très, très bien. Et ça, c'est pour mon plus grand plaisir. Les gens qui assistent à mes spectacles, je pense, se souviennent de moi avec bonheur. Puis ça me fait très chaud au cœur.
On vient d'entendre The New York Voices, Caravan, et je fais le lien, c'est presque un jeu de mots, mais vous êtes embarqué dans une caravane qui allait vraiment très rapidement dès votre jeune âge, qui vous a amené parfois au plan même de vos liens amoureux à établir des liens difficiles, disons-le.
Toujours. Ouais. J'ai eu beaucoup de difficultés de difficultés à m'arrêter dans cette espèce d'échafaudage qui s'est amorcé dès mon jeune âge. Alors, j'avais une vie tellement remplie de désirs inassouvis comme de regrets inassouvis aussi.
Quand vous y repensez, vous étiez à la recherche de quoi fondamentalement? Est-ce que vous recherchiez, parce que vous le dites souvent, vous l'écrivez souvent dans le livre, que fondamentalement, vous cherchiez à être aimé.
Oui.
Dans toutes les relations amoureuses que vous avez pu nouer dans votre vie, vous n'avez pas trouvé cet amour véritable,
oui.
Mais vous étiez dans cette recherche constante. Est-ce que c'est parce que le métier faisait en sorte de vous plonger constamment dans un mirage?
Je dois dire que dans plusieurs relations que j'ai eues, il y avait toujours, en quelque part, il y avait de l'amour. Je n'ai jamais traité, par exemple, une relation d'un soir ou une relation fortuite, là. J'ai jamais pensé, c'est fini, je veux rien savoir, c'est terminé, je veux pas revoir cette personne-là. Non, il y avait toujours un sentiment profond dans chacune, je l'avoue, dans chacune de mes aventures. C'était des aventures, mais je gardais toujours un beau souvenir. Et une espèce de reconnaissance. C'était toujours... J'avais beaucoup de reconnaissance pour celle qui m'accordait ses faveurs. C'est bête à dire, mais c'est comme ça.
Toujours à la fin, une insatisfaction profonde de voir que tout cela était éphémère.
Oui. Mais j'ai quand même connu l'amour avec un grand A pendant plusieurs années aussi. J'ai aimé profondément ma première épouse. Ça a duré 22 ans. La deuxième aussi, ça a duré 17 ans. Et maintenant, je vis avec ma conjointe depuis 10 ans. Ma dernière conjointe. Mais c'est pas la dernière. Je veux dire dans le sens que...
Oui.
Pas dans le sens qu'il y en aura d'autres. Là. Je veux dire, c'est la plus récente et c'est celle qui va rester.
Thank you. C'est une musique que vous connaissez.
Oui, oui, c'était un film que j'avais beaucoup aimé. Oui, avec Hardy Krueger.
Cybèle ou les dimanches de Ville-d'Ovray, c'était le thème de Jeanne qu'on entend encore, un film réalisé par Serge Bourguignon. Pourquoi cette musique? Parce que dans le livre que vous écrivez, vous dites que c'est un film qui vous a profondément marqué,
oui.
Qui vous faisait prendre conscience que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie aussi, parfois le mal. Vous aviez une espèce de désespoir à l'égard de l'humanité après avoir vu ce film.
Oui, parce qu'on condamnait, le héros du film, joué par Hardy Krueger, qui était sans cesse en compagnie d'une petite fille d'une douzaine d'années. Et tous les gens aux alentours le considéraient comme un pédophile.
Oui, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un pilote de guerre,
ouais.
qui devient amnésique. Et qui se lie d'amitié avec une jeune fille qu'il va protéger.
Oui.
Ça n'a rien de connotation sexuelle de quelque ordre que ce soit, mais on se retrouve dans une société qui ne permet pas cette amitié entre l'homme et la jeune fille.
Jusqu'à l'assassiner au moment où il jouait dans un parc en sa compagnie. Et ça m'avait troublé, sérieusement.
Oui.
Oui.
On va clore, puis je ne veux pas qu'on ne parle que de cela, mais l'épisode que vous avez traversé, qui a amené aussi cette condamnation, aujourd'hui, à 73 ans, qu'est-ce que vous en retirez? Vous avez écrit un livre pour, probablement, je le disais, aller peut-être chercher le pardon?
Non.
Non.
Non, pas vraiment.
Pas vraiment?
Non. J'ai écrit un livre pour raconter ma vie en général. Évidemment, je ne pouvais pas éviter cette question-là, parce que ça a été un épisode qui a été mis en relief il y a maintenant presque 10 ans. Non, je ne pouvais pas sauter par-dessus ça.
Et là, je ne sais pas si c'est par amertume, mais vous nous proposez Henri Salvador.
Non.
Bon voyage. C'est vraiment le mari qui est vraiment pas content à l'égard de son ex.
Non, il n'y a pas d'amertume du tout. C'est que Henri Salvador m'a beaucoup amusé dans plusieurs de ses chansons, oui. À l'époque fantaisiste. Je pense à Buenas Noches, mi amor aussi. Il faisait... Buenas noches, mi amor. Il m'amusait énormément. Puis Bon voyage. C'est parce que, finalement, c'était une chanson qui était très populaire dans l'interprétation de Gloria Lasso. Une chanson assez sérieuse, quand même. Et lui a voulu un peu la rendre un peu plus légère.
Et on va l'enchaîner avec une autre chanson complètement différente, celle de Michel Louvain, La ville pleure. Et là, il y a une raison pour cette chanson.
Oui, c'est que c'est la première fois qu'on m'a demandé d'écrire des paroles pour quelqu'un d'autre. Et je n'étais pas certain de réussir. En fait, c'était une chanson américaine qui avait pour titre « It's a lonely town ». Alors, j'ai écrit des paroles, « La ville pleure ». Et quand je suis allé en studio, parce que j'étais évidemment choriste sur l'enregistrement de Louvain, et Louvain regarde le texte, c'est toi qui as écrit ça? Oui, c'est moi. Il dit, tu t'es forcé? Et ça a été le signal pour moi. C'est là que j'ai commencé à écrire des paroles de chansons pour d'autres. J'en avais déjà écrit quelques-unes pour moi avant ça, mais ensuite j'ai écrit seulement pour Lautrec, j'en ai écrit 11 à peu près. J'ai écrit pour les Classel, pour les Baronnets, pour Dominique Michel, pour Denis Filiatrou, pour Yolande Dalisi, des tas de gens. Mais la première chanson que j'ai écrite pour quelqu'un d'autre, c'était « La ville pleure ».
Pas la peine de prendre cet air triste en me quittant. Hein? Puisque celui qui t'aime t'attend, hein? Offre-lui de mes pères ces lilas du jardin. Empoisonné. Je ne lui en veux pas, hein? Je le plains. Et bon voyage! Bon voyage! Et le soleil il brillera bien sur toi, mais le propre! Tu peux faire une croix, hein. J'ai fini de t'aimer, affreuse. Bon voyage, je ne reviens jamais, vilaine. Mais je m'emporte, les... C'est bête. Je te souhaite d'être heureuse. On m'a dit qu'il avait de beaux yeux.
Il louche.
On m'a même ajouté, comme pour t'excuser, que tu l'aimes au point de l'épouser. Enfin, tu fais ce que tu veux, hein. Pour mes oignons. Et bon voyage! Bon voyage! Tes tendresses pour moi, hein. Ben garde-les dans un tiroir. Quand tu vas tout à l'heure te jeter dans ses bras, hein. Ah, n'aie pas peur que je pleure, hein. Il va donner, peut-être. J'espère qu'il coulera le béton, oui.
La ville bouge, on voit des gens à flou. Près des feux rouges, la foule meurt en fou. Je n'entends plus ta voix près de moi sur la grande avenue. La ville pleure, sans toi je ne vis plus. La ville chante, les passants sont heureux. Rien ne m'enchante, je m'effondre peu à peu. Pourquoi m'as-tu quitté, désespéré? Je pleure ton retour.
Henri Salvador, bon voyage, et La ville pleure, Michel Louvain, qu'on vient d'entendre. C'est curieux, vous me racontiez que Michel Louvain a commencé sa carrière après vous.
Oui, sur disque, oui, bien sûr. Louvain est arrivé après moi. Fernand Gignac a commencé à enregistrer après moi. Mais j'étais un petit gars, c'est ça, là. C'est que j'avais 14 ans quand j'ai commencé sur disque. Alors, André Lejeune, c'est après moi, Norman Knight, en tout cas, la plupart.
Vous avez parlé de Donald Lautrec, que vous avez connu alors qu'il n'était pas chanteur.
Non.
Qu'il était trapéziste.
Acrobate. Sur trampoline. Oui, oui. Il était avec un partenaire, c'était Don and Lee. Alors, Don, c'était Donald, et puis Lee, je me souviens pas de son nom véritable.
Et il est allé vous voir, vous disant, moi j'aimerais ça faire de la chanson.
Oui, exactement. Ils chantaient, on voyageait, j'étais en tournée avec eux, avec d'autres aussi, mais c'est Donald qui conduisait la voiture la plupart du temps. Il avait peut-être 19 ans à l'époque, moi j'en avais 16 ou 17 ans. Et il me disait toujours, je veux chanter, j'aimerais ça chanter. Et à notre retour de tournée, il m'a appelé et il m'a demandé de lui prêter les partitions de mes chansons, des chansons que je faisais en spectacle. Et parce qu'on lui avait offert de s'essayer sur la rue Saint-Denis, comment que ça s'appelait, non? En tout cas, c'était un endroit très populaire auprès des jeunes. Et il a commencé en interprétant mes chansons. Puis ça a marché. Parce qu'il était beau bonhomme aussi, ça nuisait pas dans le temps.
Hein.
Ouais. D'ailleurs, c'est encore comme ça aujourd'hui. C'était encore comme ça. Et après, il a fini par rencontrer à son tour Yvan Dufresne.
Et Donald Lautrec a sorti, il y a quelques années, c'était le retour, il a sorti un album magnifique, vraiment magnifique, qui n'a pas tourné, hélas, à la radio. Ça n'a vraiment pas été un succès, entre guillemets, commercial. Et je pense que ça a été une expérience un peu douloureuse pour lui.
C'est ce qui arrive à plusieurs. Ça, c'est bien évident que, bon, on a eu un public très fidèle, très chaleureux à l'époque de jeunesse d'aujourd'hui. Et ce que les gens veulent entendre de nous maintenant, c'est de réentendre les succès qu'on a connus. Mais, par exemple, moi, je pense que les meilleurs albums que j'ai enregistrés sont passés, entre guillemets, sont passés dans le beurre. Parce que j'avais 40 ans pour un, je pense à un album qui avait pour titre « Voici mon cœur », C-H-O-E-U-R. Où je faisais toutes les voix d'accompagnement. Et ça a passé comme inaperçu. Et ensuite, cet album que j'ai enregistré, Pierre Sénécal chante Aidé Marné, où j'avais 59 ans, à peu près 59 ans quand je l'ai enregistré. Ça arrive dans les postes de radio et on met ça de côté, tout simplement. On ne l'écoute même pas. Et je dis ça sans amertume, c'est comme ça, c'est un peu logique.
Grand feu de joie s'éteint, on s'en va les yeux baissés. Alors il suffirait d'un rien pour le voir se rallumer. Aussi de ceux qui croient qu'on attend toujours en vain le vrai, le grand amour, c'est toi qui viens me l'offrir enfin. Rien
confirmait le propos précédent, rien n'est fini. C'est vous qui aviez interprété cette chanson. Ça date de la fin des années 60?
Rien n'est fini, ou ça doit être en 67 à peu près, 66-67.
On va pouvoir parler de votre carrière de choriste la semaine prochaine. On va vous demander de nous revenir. Vous nous avez mentionné que vous avez pas juste fait des voix, vous avez fait aussi du sifflet.
Oui.
On va avoir comme thème de fermeture une pièce de Steve Barakat, The Whistler's Song, et la personne qu'on entend siffler, c'est vous.
C'est moi. Je sifflais, oui, même pour des publicités, on m'appelait pour siffler.
J'ai dit le Roger Whittaker du Québec.
Un petit peu, oui. J'en ai fait beaucoup, c'est pour Guy Saint-Onge. Et ça, The Whistler's Song de Steve Barakat, ça a connu beaucoup de succès au Japon. bizarrement.
Incroyable.
Ouais.
Comme André Gagnon, qui connaît un succès encore formidable au Japon, la musique instrumentale, elle est universelle.
C'est vrai.
Elle est peut-être entendue partout. Écoutez, Pierre, le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Vital Côté. Un gros merci d'avoir été là cette semaine, mais on vous attend la semaine prochaine. On va pouvoir poursuivre sur cette carrière qui a été pas uniquement au plan de la chanson, mais aussi au plan publicitaire. Alors, vous allez être des nôtres?
Merci, certainement. Ça me fait grand plaisir.
Armand Dubois, l'animation et réalisation. Passez une belle semaine. Revenez-nous. Mais entre-temps, vous pouvez demeurer à l'antenne. D'autres émissions vont suivre pour votre plus grand plaisir.